J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air.
Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table.
Le gars est fou de joie, il veut tout vendre, liquider ses avoirs, prendre son fric et partir à toute jambe. Il ne doit surtout pas le faire. Bref, c'est virtuel, mon vieux.
Ok, tu vois.
Jusqu'où ça ira, hein ?
Il s'agit de pognon, petit. Comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. Money.
De temps en temps, il est bon d'en revenir aux fondamentaux. Dans le monde de nos amis financiers, du marché, de son efficience, des modèles mathématiques infaillibles et des dividendes plantureux, il y a incontestablement un avant et un après crise de 2008, dite crise des subprimes. Mais c'est quoi au juste la crise des subprimes ? Je vous résume en quelques étapes clés et avec le brio pédagogique qui m'est coutumier. Subprime, en anglais bien sûr, se rapporte aux emprunts dont les taux d'intérêt appliqués à leur remboursement étaient dits préférentiels. Les subprimes étaient destinés aux emprunteurs ne présentant pas de garantie suffisante de remboursement par opposition aux prime rates accordés aux emprunteurs solvables du genre couple monsieur avocat d'affaires, madame directrice du marketing. L'idée, louable au demeurant, était de permettre, pour le faire simple, à des pauvres de bénéficier quand même de crédits, essentiellement pour acheter leur logement. Le problème, c'est que aux États-Unis, et contrairement par exemple à ce qui se passe en France, même si ça commence à changer, il n'y a aucun ratio exigé entre les emprunts contractés et les possibilités de remboursement des emprunteurs. Comme, à l'époque, le marché de l'immobilier américain était particulièrement actif et les taux d'intérêt particulièrement bas, l'encours, c'est-à-dire le montant total des emprunts, a rapidement augmenté, passant de 200 milliards de dollars en 2002 à 640 milliards de dollars en 2006, soit, je calcule pour vous, plus de 3 fois plus en 4 ans. Bien consciente des risques liés à cette envolée des crédits auprès de clients très vaguement solvables, les banques et autres établissements financiers impliqués avaient trouvé une idée de génie pour se couvrir des risques induits, la titrisation. En gros, la titrisation, bien nommée « securitization » en anglais, permet de transformer des créances – et les emprunts, je vous le rappelle, sont des créances en produits financiers échangeables sur le marché. En bref et en très gros, les emprunts concoctés par 40 smicards en fin de droit pour acheter sur 30 ans 40 F2 dans un quartier ouvrier de Maubeuge pouvaient faire l'objet de spéculations comme 40 actions de LVMH. Le problème, c'est que ce système ne fonctionne, entre guillemets fonctionne, que tant que les taux d'intérêt restent bas et tant que le marché immobilier reste actif. Vous l'avez deviné, à partir de 2004 aux États-Unis, les taux d'intérêt ont commencé à remonter. Et à partir de 2007, le marché immobilier a commencé à s'effondrer. Les emprunteurs n'ont plus été en capacité de rembourser leurs prêts, les sociétés de crédit ont commencé à faire faillite et la valeur des créances titrisées s'est écroulée, plus personne ne voulant les acheter. Par effet de contagion, puisque, je vous le rappelle, nous sommes dans la mondialisation heureuse, c'est le système financier tout entier qui a vacillé. Là encore, pour vous le faire bref, à part la banque Lehman Brothers, qui a fait faillite, et grâce au renflouement par les États, c'est-à-dire, ai-je besoin de le rappeler, par les contribuables, des institutions financières, aucun autre établissement n'a disparu. Personne ou presque n'a été jugé pour toutes les erreurs et malversations ayant conduit à cette catastrophe et personne ou presque, évidemment, n'a été condamné. Quand je vous aurais rappelé qu'aujourd'hui, le marché immobilier est plus que florissant, que les taux d'intérêt sont historiquement bas et que l'Union européenne favorise la relance de la titrisation, il me semble que j'aurais fait le tour de la question, vous laissant le soin d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air.
Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table.
Le gars est fou de joie, il veut tout vendre, liquider ses avoirs, prendre son fric et partir à toute jambe. Il ne doit surtout pas le faire. Bref, c'est virtuel, mon vieux.
Ok, tu vois.
Jusqu'où ça ira, hein ?
Il s'agit de pognon, petit.
Comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends.
Money.